Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre très importante série concernant le meurtre de Jésus-Christ. Nous arrivons à l'étude numéro 8. Et là, on peut dire que notre titre pour aujourd'hui sera le matin de la crucifixion. Le Sanhédrin doit mettre au point une bonne stratégie qui lui permettra d'avoir gain de cause contre Jésus. Rappelons-nous que quelques années auparavant, Rome a rescindé le droit qu'avaient les chefs religieux de mettre eux-mêmes quelqu'un à mort, selon Saint Jean chapitre 18, verset 31. Depuis toute peine de mort, depuis là donc, toute peine de mort, devait donc être sanctionnée et exécutée par les autorités romaines uniquement. La seule exception, c'est la possibilité de lapider à mort et sur place, tel qu'un païen qui aurait peut-être profané le temple. Il arrive aussi, alors que des juifs beaucoup trop zélés lapident des gens qui ont été surpris à commettre un crime capital. Les hommes, dans notre histoire de Saint Jean, chapitre 8, verset 3 jusqu'au verset 11, par exemple, ces hommes voulaient donc lapider, rappelez-vous, une certaine femme. La femme qu'ils avaient prise en flagrant délit d'adultère. L'histoire de cette époque-là, elle nous révèle qu'il arrivait alors que Rome, par opportunisme politique, fermer les yeux sur des telles lapidations, surtout lorsque de petites gens en étaient les auteurs. Actes chapitre 7, versets 54 à 60. Mais Rome ne ferait pas preuve de la même tolérance envers le Sanhédrin s'il s'avisait d'en faire autant. De plus, le Sanhédrin n'a d'autorité que dans les affaires religieuses, ce qui fait qu'il lui arrive rarement d'instruire des causes impliquant un crime capital. Il pourra peut-être, dans des cas extrêmes, obtenir de Rome l'autorisation de mettre à mort un blasphémateur particulièrement perturbateur. Mais pour des raisons évidentes, les Romains qui adhèrent à leur propre idéologie mythique du polythéisme ne souhaitaient guère encourager les Juifs à mettre à mort les hérétiques. Si le Sanhédrin souhaite demander à Rome qu'elle impose à Jésus la peine de mort, il lui faudra se montrer très convaincant dans sa présentation de la cause en litige. Or, le fait que le procès contre Jésus se soit tenu au pied levé, et rappelez-vous, en pleine nuit, et loin de donner à la cause un air de crédibilité. Et voilà peut-être d'ailleurs pourquoi le Sanhédrin a décidé aux petites heures du matin, probablement vers les 3 ou 4 heures, d'ajourner l'instruction de la cause jusqu'à plus tard en matinée. De toute façon, tous doivent être épuisés. L'ajournement allait donc accorder aux membres du conseil quelques heures de sommeil avant de se rassembler de nouveau officiellement en pleine journée pour rendre un verdict formel afin de se conformer à la procédure à suivre dans de tels cas. Ainsi, si quelqu'un mettait en doute la légitimité des procédures intentées contre Jésus-Christ, le Sanhédrin pourrait protester avoir rendu son verdict en plein jour. C'est pas mal calculé. Les conspirateurs ne perdent donc pas un seul instant. Il faut faire vite. Saint-Luc rapporte que dès le lever du jour, Saint-Luc chapitre 22 verset 66, le Sanhédrin se réunit de nouveau pour instruire définitivement la cause de Jésus. Voici comment saint Matthieu décrit la rencontre. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple ont tenu conseil contre Jésus pour le faire mourir. Saint Matthieu chapitre 27, verset 1. Jésus a passé la nuit sous surveillance, peut-être dans une cellule à même la résidence de Caïphe. Notons que à Jérusalem, sur les lieux où l'on croit traditionnellement qu'était située la maison de Caïphe, il y a une vieille petite cellule de pierre qui a été percée d'une porte suffisamment grande pour permettre l'entrée d'une seule personne. Il est possible qu'à l'issue de ce procès, Jésus ait été, on peut dire, détenu dans une cellule comme celle-là, et ceci pour y passer le reste de la nuit, ou quand l'a peut-être gardé sous surveillance armée, évidemment, une surveillance armée, dans une pièce de la maison de Caïphe. Dans un cas, comme dans l'autre, le jour levé, on le ligote de nouveau, évidemment toujours les mains fermement liées dans le dos, comme la coutume le veut alors dans le cas de criminels, et on le ramène devant le Sanhédrin pour que celui-ci puisse officialiser, carrément officialiser son verdict et déterminer la manière dont il obtiendra la mise à mort de Jésus. Ici, le Sanhédrin soumet donc Jésus une fois de plus au même interrogatoire que lui a fait subir Caïphe au cours de la nuit précédente. Et voici comment Saint-Luc décrit l'instruction de l'affaire. Notez Saint-Luc chapitre 22, verset 66 à 71, 66 à 71. Là, il est dit, quand le jour fut venu, le collège des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes se sont assemblés et ont amené Jésus. Et ils ont dit, voyons, si tu es le Christ, eh bien, dis-le nous. Jésus leur répondit, si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Et là, tous ont dit, mais tu es donc le Fils de Dieu? Et il leur répondit, vous le dites, je le suis. Alors ils dirent, mais qu'avons-nous encore besoin de témoignage? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa propre bouche. Saint-Luc chapitre 22, verset 66 à 71. Je prends évidemment des fois mes versions allemandes, étant donné que je suis de langue allemande. Bon, mais c'est pareil chez vous. Rassurez-vous. Alors, ils veulent faire dire très clairement à Jésus qu'il est tout simplement le Messie. mais bien qu'ils aient fait témoigner à maintes personnes contre lui, il n'arrive toujours pas à prouver qu'il a déjà déclaré publiquement, explicitement, de être le Christ Jésus. C'est que bien qu'il soit effectivement le Christ, il ne l'a jamais dit ouvertement en public. Et voilà donc d'ailleurs pourquoi, lorsque l'apôtre Pierre lui dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », alors Jésus lui répondit « Tu es heureux, toi, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Saint Matthieu, chapitre 16, versets 16 et 17. Après quoi, il a recommandé aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Verset 20. Les gens qui ont entendu Jésus enseigner entretiennent plusieurs opinions sur son identité. On se rappellera que Jésus a demandé à ses disciples « Qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme ?» Question dont la réponse révèle toute la diversité des identités qu'on lui prête alors. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Élie. Et encore d'autres, ils disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes, versets 13 et 14. Or, si les opinions diffèrent autant par rapport à son identité, c'est qu'il n'a jamais explicitement indiqué en public qu'il était le Messie. Il a déjà laissé entendre qu'il accomplissait des prophéties concernant le Messie. Saint Luc chapitre 4, versets 18 à 21. Il a déjà dit à des gens, en privé, qu'il était le Messie. Saint Jean chapitre 4, versets 25 et 26. Il a déjà déclaré que les Saintes Écritures de l'Ancien Testament témoigne de lui, Saint Jean chapitre 5, verset 39. La plupart des gens savent certainement que ses proches croient qu'il est vraiment le Messie. L'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem, moins d'une semaine avant son arrestation. Cela révèle d'ailleurs combien sont nombreux ceux qui le croient. Mais le Sanhédrin est déterminé à lui faire dire de sa propre bouche qu'il est le Messie, tout cela pour pouvoir consigner ses paroles. Par sa réplique, Jésus expose ici le préjudice des membres du Sanhédrin. S'il déclarait être le Messie, il ne le croirait pas, pas plus du reste qu'il ne considérerait sérieusement les preuves qu'il pourrait leur fournir. Ils ont déjà vu et entendu beaucoup de preuves renversantes à l'appui de tous ces pouvoirs divins. En fait, c'est un de ses plus grands miracles. C'est la résurrection de Lazare. Et cette résurrection les a finalement amenés à vouloir le faire mourir. Saint Jean chapitre 11, verset 53. De plus, comme Jésus le leur a fait remarquer, il les a déjà questionnés sur son identité messianique, mais ils ont refusé de lui répondre. Saint Luc chapitre 20, versets 3 à 7 et versets 41 à à 44. J'ai dit Saint-Luc chapitre 20. Or, s'ils n'ont rien à redire des preuves à l'appui de son identité messianique, ils doivent donc le laisser aller. Mais il est bien clair qu'ils n'en ont pas du tout la moindre intention. C'est maintenant qu'ils veulent vraiment en finir avec Jésus par le truchement d'un procès qui n'a absolument rien de légitime. Mais bien qu'ils ne croient pas en ce moment-là à la véracité des allégations de Jésus, il leur assure solennellement que désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Saint-Luc chapitre 22, verset 69. Par cela, il leur signifie que les rôles seront un jour inversés et que ce sera alors lui, qui les jugera. Encore en partie insatisfait de sa réponse, il continue de le presser. « Tu es donc le Fils de Dieu ?» Question à laquelle il répondra Jésus simplement cette fois-ci, « Bien sûr, vous le dites, alors je le suis. » Verset 70. Ils sont donc enfin ce qu'ils ont voulu. Ils peuvent recueillir en plein jour le témoignage de Jésus qui se dit être le Fils de Dieu. Et comme il vient tout juste le souligner, qu'ils disent vrai ou faux, cela ne fait pas la moindre différence pour eux. Bien que tout au long de son ministère, Jésus, il a bel et bien prouvé, et encore, qu'il disait absolument vrai et que certains d'entre eux en aient même vu, ils ont vu la preuve de leurs propres yeux. Les conspirateurs n'ont donc aucune intention de confirmer ou d'infirmer la véracité de son allégation. Tout ce qui les intéresse, voyez-vous, c'est de le faire clouer à la croix, et cela le plus vite possible. Si bien qu'au bout du compte, ils le feront crucifier pour avoir dit la vérité. Dès que Jésus déclare être le Fils de Dieu, eh bien la séance est levée. Oui, ils ont dit, et ils disent, voyons, qu'avons-nous encore besoin de témoignages ? Et là, ils ont tranché sur le champ, selon le verset 71, 71 de Luc chapitre 22. Comme la veille, Jésus n'a donc pas la possibilité d'appeler quiconque à témoigner en sa faveur. Et nul n'est donc autorisé à présenter des preuves à l'appui de son allégation. Voyez-vous, pour ces hommes, toute preuve serait absolument irrécevable, car les dés sont pipés, sont jetés, et ils s'en tiendront à leur verdict de culpabilité. Sans compter, que le témoignage de Jésus-Christ leur fournit, c'est l'apparente légitimité dont ils en avaient besoin. En ce qui les concerne, donc, tout témoignage supplémentaire s'avérerait superflu et contre-productif. Alors il leur tarde maintenant de voir leur sentence être mise en exécution. Le Sanhédrin décide donc, et c'est la séance tenante, il faut se dépêcher de conduire Jésus devant Ponce Pilate, afin d'obtenir des Romains la permission de le mettre à mort, et de préférence par l'intermédiaire de bourreaux romains. Après l'avoir lié, ils l'ont donc amené et ils l'ont livré à Ponce Pilate, le gouverneur. Saint Matthieu chapitre 27, verset 2. À ce point-là de l'évangile, Saint Matthieu met en veilleuse le récit du procès de Jésus pour relater la fin terrestre de ce fameux Judas. Ah, écoutez bien la suite. C'est tout à fait possible que cette parenthèse s'inscrit ici parfaitement dans l'ordre chronologique des événements. Ou encore, il se peut très bien que Saint Matthieu cherche ainsi à contraster violemment l'infamie que personnifie, et puis comment, que personnifie Judas avec la pureté parfaite que personnifie Jésus. Et dans un cas comme dans l'autre, en l'insérant ainsi dans son récit, Saint Matthieu met l'accent sur l'incroyable injustice de la mort de Jésus, comme en témoigne le fait que même celui qui l'a trahi en a si lourd sur la conscience qu'il lui est littéralement impossible d'y survivre. À ce sujet, Saint Matthieu écrit, et notez bien chapitre 27, versets 3 à 5, « Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, il fut pris de remords et il rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant, « Eh bien oui, j'ai péché. J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils lui répondent, « Mais que nous importe ? On s'en fout. Cela te regarde, toi ?» Alors Judas jeta les pièces d'argent dans le temple et il se retira et il alla se pendre. Saint Matthieu, chapitre 27, versets 3 à 5. À en juger par la façon que à Saint Matthieu d'exposer la situation, il agit ainsi à des fins chronologiques. Il est dit alors Judas, voyant qu'il, Jésus, était condamné, Saint Matthieu chapitre 27 verset 3, on ne sait pour l'instant où se trouve Judas lors du procès de Jésus. Il semble improbable qu'il prenne une part active au procès, compte tenu de sa réputation de renégat et de traître, son témoignage serait compromis et probablement jugé irrecevable. Comme les événements qui suivent en témoigneront, même les complices du Judas ne savent que faire de lui, maintenant qu'il a fait le sale boulot. C'est désormais un paria que tous méprisent pour sa déloyauté. Mais toutefois, Judas souhaite évidemment connaître l'issue du procès. À l'instar de l'apôtre Pierre, il semble suivre à distance. Du moins, il était manifestement présent lorsque le Sanhédrin a fini d'instruire la cause de Jésus en matinée, puisque Saint Matthieu indique que Judas a vu qu'on avait condamné Christ. C'est peut-être d'ailleurs en voyant ici Jésus lié et amené devant Pilate qu'il finit par se rendre compte de toute l'énormité de son péché. Le fait de voir Jésus être si maltraité à cause de sa trahison, et plus, on peut dire vraiment beaucoup plus, que même Judas ne peut en supporter, Il se peut que Judas commence maintenant, à l'instant, à réaliser, heureusement, mieux tard que jamais, et pour la première fois et dans toute son ampleur, la folie épouvantable de son péché. Il a vendu le Fils de Dieu contre une poignée d'argent. Et par sa faute, il a perdu l'occasion inestimable de fraterniser et d'œuvrer étroitement avec le Dieu incarné dont il jouissait en tant que membre des douze. Après tout, dans toute l'histoire, il n'y a que 11 autres hommes qui ont pu côtoyer aussi intimement Dieu le Fils. Personne d'autre n'aura jamais autant entendu le rejeter ou rejeter la vérité de la bouche même du Seigneur. Oui, personne d'autre n'aura jamais autant eu le privilège d'être témoin de première main de l'exemple du Seigneur, et cela d'aussi près et pendant si longtemps, pour le rejeter ensuite quand même. C'est épouvantable. Voyez-vous, l'histoire abonde en crapules, oh, il y en a beaucoup aujourd'hui, encore plus que jamais, qui semblent beaucoup plus méprisables, on peut le dire, que Judas Iscariote. Oui, il est vrai que si on le compare à l'auteur d'un génocide, prenons Hitler et d'autres, ou quelqu'un qui a mené une vie dissolue, eh bien Judas peut ne pas sembler tellement terrible. Mais la vérité, c'est que personne, voyez-vous, personne ne saurait être plus pervers que lui. Personne n'a jamais péché contre une telle lumière et un tel privilège. Personne n'a jamais trahi une victime plus innocente que Jésus. Personne n'a jamais gardé le cœur aussi dur et pendant si longtemps en présence d'autant de bonté et de compassion. N'oublions pas qu'au cours des 3 années qu'il a passées aux côtés de son maître, Judas a reçu de Jésus-Christ exactement les mêmes gages d'amour compatissant et divin que les autres disciples. Mais tous ces privilèges n'ont jamais eu le moindre effet, ni sur son âme, ni sur son esprit, ni sur son cœur. Quel épouvantable Judas! Pendant 3 années, Judas a résisté à toute la vérité qu'il a entendue des lèvres de Jésus pour finir par le rejeter définitivement. Il s'est donc endurci le cœur contre tout cela et son mépris pour le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu innocent de tout péché, n'a fait que croître secrètement une certaine haine en lui, ou jalousie. D'ailleurs, au fil des années, il est passé maître dans l'art d'agir avec beaucoup d'hypocrisie, si bien qu'il a réussi à dissimuler sa véritable nature à tout le monde, sauf à Jésus. En bout de ligne, il a vendu avec bonheur au plus offrant tous ses privilèges spirituels, y compris Jésus-Christ lui-même. Or, une telle perversité de cœur, cela ne dépasse-t-elle pas l'entendement, je vous pose la question. Rien d'étonnant donc à ce que Jésus les traiter de démons. Notez Saint Jean chapitre 6 verset 70. Et que Satan a eu accès si facilement à son cœur. Saint Jean chapitre 13 verset 27. Notez aussi Saint Luc chapitre 22 verset 3. Donc, jamais la terre n'a connu une âme qui est plus vile, affreux. Mais, même Judas, oui, même Judas, il ne peut échapper à l'horrible souffrance que lui inflige sa propre culpabilité. Il vient toujours à un moment dans la vie, un temps, où même un cœur aussi endurci et une conscience aussi gravement flétrie ne permettent plus à l'âme, à l'esprit, de faire fi du sentiment de culpabilité qu'elle éprouvera pour le reste de l'éternité. Et dès que Judas voit Jésus être lié et amené, eh bien, les regrets l'envahissent. Il ne s'agit pas d'une véritable repentance, mais de simples remords, comme disent les Anglais, les Américains, à doux bout de chant, « I'm sorry ». Précisons que dans le grec, Matthieu n'emploie pas le terme normal pour désigner la repentance, mais un autre terme qui désigne simplement un regret profond. Judas commence donc ici à réaliser les conséquences cruelles qu'encourt son péché. Conséquences, on peut bien dire, ces conséquences, il les déteste d'ailleurs. Mais, il n'en viendra jamais au point de détester le péché lui-même en soi. Voyez-vous pourquoi Judas se sentit soudainement pris de remords? Surtout maintenant qu'il voit Jésus être condamné. Il se peut qu'il ait pensé en trahissant Jésus, que celui-ci échapperait à son arrestation comme il l'avait déjà fait à plusieurs reprises, ou encore qu'il ait présumé que Jésus réussirait à se disculper de toute accusation susceptible d'être portée contre lui. Après tout, Jésus n'était coupable de rien du tout, et Judas n'a jamais vu Jésus-Christ échouer à quoi que ce soit. Donc Judas espérait peut-être que Jésus pourrait s'enfuir ou qu'il soit innocenté. Ça, ce serait le scénario parfait selon lui. Il aurait encore ses 30 pièces d'argent en poche et Jésus se tirerait d'affaire indemne. Or, les sacrificateurs hypocrites auraient simplement gaspillé 30 pièces d'argent. Il se peut que, à force de tenir une telle ou un tel raisonnement, Judas se voit tout à coup convaincu qu'en trahissant Jésus, il n'avait peut-être pas commis une faute aussi grave que ça et que les conséquences seraient négligeables ou éphémères. Surtout si Jésus était véritablement le Messie. Mais en voyant Jésus être condamné par sa faute, quelle horreur! Alors il prend maintenant conscience, pour la première fois, de toute l'énormité de sa culpabilité. Et c'est beaucoup plus qu'il ne peut en supporter. Judas souhaite donc désespérément éviter maintenant de payer les conséquences de son geste. on remarquera jusqu'où il va pour échapper à la culpabilité. Du point de vue humain, cela peut sembler plutôt convaincant comme preuve d'une sorte de repentance. Primo, il tente de remettre l'argent du sang. Alors, il ramène au Sanhédrin les 30 pièces d'argent en les suppliant de les reprendre. Judas profite peut-être de le faire pendant que les conspirateurs sont encore réunis à l'issue du procès final de Jésus et maintenant que Jésus-Christ vient d'être amené pour comparaître devant Pilate. Avant tout, ce que Judas voulait, c'était évidemment l'argent. Maintenant, il souhaite désespérément se défaire de ce qui lui rappelle la culpabilité qui le tenaille très cruellement. C'est un peu comme si cet argent lui brûlait maintenant les doigts. Judas s'avoue verbalement coupable. Il reconnaît donc, il reconnaît avoir péché. Et il déclare également Jésus innocent. Il ne cherche pas du tout à se disculper, mais il admet de plein gré avoir tout de même mal agi. De prime abord, ces démarches peuvent sembler témoigner d'une bonne dose de repentance, mais il est néanmoins loin, très loin du compte. C'est vrai qu'il admet avoir péché, mais il ne se confesse pas à Dieu et ne sollicite pas véritablement son pardon. Il ne se présente pas comme l'a fait le fils prodigue à celui contre qui il a péché. Judas n'éprouve manifestement aucune ou plus guère d'amour pour Jésus-Christ. Et ici, tandis qu'il remet l'argent au Sanhédrin, et lorsque celui-ci le lui a versé, voyez-vous, tout ce qui a changé, c'est bien entendu, c'est qu'il est maintenant Judas cruellement conscient des répercussions de son terrible péché. Et il se refuse aux conséquences. Comme beaucoup de nos contemporains qui professent la repentance, Judas souhaite avant tout d'échapper à la souffrance qui accompagne la culpabilité. Cette conscience qui ne cesse de le tourmenter affreusement. Le péché ne satisfait jamais réellement. Le péché procure des plaisirs uniquement passagers. Notez Hébreux chapitre 11, verset 25. Mais le péché conduit invariablement à la tristesse, à la misère et à la souffrance. Motivé par sa cupidité, Judas a sacrifié à jamais, pour un simple instant de plaisir, toute possibilité de joie et de satisfaction véritable. L'apôtre Paul a bien raison de dire, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Or Judas, il est la personnification même de l'inconduite que décrit l'apôtre Paul. Personne ne s'est jamais déçu lui-même aussi cruellement et tout cela par amour intense de l'argent. On peut dire de l'amour insensé de l'argent. Donc, Judas ne reçoit ni sympathie ni soutien de la part de ses complices conspirateurs. En réponse à son aveu, il n'obtient que leur moquerie. Ils lui répondent, « Mais que nous importe? Ça, c'est ton problème. Cela te regarde. » C'est Matthieu chapitre 27, verset 4. Ils ont bien d'autres chats à fouetter pour le moment. Ils doivent trouver le moyen de faire crucifier Jésus. Disons tout de même que la dureté de leur réplique est saisissante. Judas vient d'admettre carrément avoir livré le sang innocent. Or, le fait que cela ne signifie rien du tout pour eux révèle combien ils sont vraiment mal intentionnés depuis le tout début. Alors, ils feront tout pour crucifier Jésus en le sachant pertinemment innocent. N'arrivons pas à leur faire reprendre leur argent. Judas le jette dans le temple et il s'en va. Cela signifie peut-être qu'il lance les pièces dans le lieu saint où seuls les sacrificateurs sont autorisés à entrer, forçant ainsi les sacrificateurs à les ramasser eux-mêmes. Il s'agit là d'un ultime geste d'épie destiné à les pousser à gagner les pièces d'argent devenues le symbole de la cupidité de Judas. Rappelons-nous ceci. Il est dit dans Deutéronome chapitre 27, verset 25, « Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent. » Judas associe donc les pièces en soi à la malédiction et désire ainsi se soustraire à cette malédiction en se débarrassant tout simplement de l'argent. En tout cas, il souhaite tout au moins étendre cette même malédiction à ses complices conspirateurs. Ce qui explique d'ailleurs qu'il manipule les pièces comme s'il s'agissait d'un cadeau empoisonné. En tournant les talons aussitôt après leur avoir jeté les pièces, il ne leur laisse d'autre choix que de reprendre l'argent. Judas, maintenant absolument seul au monde, il est au désespoir, il est inconsolable et il croule sous le poids de la culpabilité. Il scellera maintenant donc à jamais, sa propre ruine par le suicide. Il y a actuellement, en Suisse, ils l'ont dit hier soir à la télévision, terriblement beaucoup de nombreux jeunes qui se suicident carrément, qui en finissent avec la vie, et ceci en Suisse. Sans compter que ailleurs c'est beaucoup pire. Voyez-vous, chers amis, peut-être Judas croit-il qu'en mettant un terme à ses jours, il cessera finalement de se sentir coupable. Va savoir. Mais c'est tout le contraire qui se produira. Car en s'enlevant la vie, il s'enchaînera à sa culpabilité pour toujours. Judas, plus que quiconque, devrait bien le savoir, puisqu'il a si souvent entendu Jésus enseigner sur l'enfer, ce terrible lieu de tourment éternel, ce terrible lieu de feu qui ne s'éteint jamais, de peur et de grincement de dents, qui se poursuivent nuit et jour à perpétuité. Et j'aimerais que vous notiez certains versets importants. Saint Matthéus, chapitre 8, verset 12, chapitre 13, verset 42 à 50, chapitre 22, verset 13, toujours Matthéus, chapitre 24, 51, chapitre 25, chapitre, verset 30, Saint Marc, chapitre 9, verset 43 à 48, et Saint Luc, chapitre 13, verset 28. Du reste, à ce sujet, vous pouvez trouver toute une série très importante qui vous démontrera, Bible en main, les conséquences de tout notre péché. Si vous sapez sur Internet, je ne possède pas Internet, je travaille pour Internet. Internet, 3xW, Bible explique en un seul mot, .ch. Il y a plus de 4000 études bibliques actuellement. Ça va sortir très prochainement dans un livre. Chers amis, dans l'enfer, voyez-vous, la souffrance qu'engendre les remords de conscience, eh bien, ces souffrances s'intensifient éternellement. Et cela ronge l'âme comme un ver insatiable qui ne meurt jamais. Oui, vous pouvez trouver tout cela sur Internet. Chers amis, Judas, on a vu, il se pend à une faible branche, paraît-il, qu'il dépasse peut-être au-dessus d'un précipice ou d'un amas de rochers aux angles tranchants dans le champ du potier. La branche semble, à un moment donné, de casser. Et Judas tombe, la tête la première, paraît-il, sur les rochers, d'où l'horrible mutilation de son corps que décrit du reste Saint Luc dans Actes des Apôtres au chapitre 1. Les chefs religieux semblent partager l'attitude superstitieuse de Judas envers l'argent du sang, bien que Judas trouve le moyen de les forcer à en assumer la responsabilité, il ne désire aucunement posséder cet argent, pas plus qu'il ne souhaite le mettre dans le trésor sacré. Alors, notez, s'il vous plaît, Saint Matthieu, chapitre 27, verset 6 jusqu'à verset 10, où il est dit que les principaux sacrificateurs l'ont donc ramassé l'argent, et ils ont dit, il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Et après en avoir délibéré, ils ont acheté avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. Et c'est pourquoi ce champ a été appelé le champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, que on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. C'est Matthieu chapitre 27, versets 6 à 10. En invoquant Jérémie, Saint Matthieu nous ramène donc, en fait, au livre de Zacharie. Et Il est dit là, au chapitre 11 de Zacharie, versets 12 et 13, « Et ils ont pesé pour mon salaire 30 pièces d'argent. » Et l'Éternel me dit, « Jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. » Et je pris les 30 sicles d'argent et je les ai jetés dans la maison de l'Éternel pour le potier. C'est donc ainsi que Zacharie a décrit avec une exactitude troublante les gestes que allait poser Judas. Le fait que saint Matthieu attribue la prophétie à Jérémie, cela reflète la manière dont on divisait alors couramment le canon hébreu en trois parties, c'est-à-dire la loi, les écrits et les prophètes. Tout comme on désignait parfois les écrits poétiques dans leur ensemble par les psaumes, d'après le premier livre de ces parties du canon, saint Luc chapitre 24, verset 44. De même, on désignait parfois les écrits prophétiques par Jérémie, d'après le premier livre de la partie prophétique du canon hébreu. Saint Matthieu et Luc mentionnent donc tous les deux qu'on finira par désigner couramment le chant en question comme étant le chant du sang. À l'époque de la rédaction des évangiles, soit environ une trentaine d'années après la crucifixion, il s'agira donc manifestement d'un endroit bien connu. Mais ici, en ce jour où Judas meurt, on le connaît sous le nom de chant du potier. Bien que saint Luc semble suggérer que Judas ait acheté lui-même le champ, il ne veut certainement rien dire d'autre par là que le champ a été acquis avec l'argent de Judas. Selon le récit de saint Matthieu, il est évident que ce sont les autorités du temple qui l'ont acheté, probablement d'ailleurs après que Judas y a trouvé la mort. Par la suite, ils auront converti la propriété en cimetière pour les étrangers, très probablement pour les non-juifs et les parias. On fait passer la transaction pour un geste charitable, bien qu'en réalité, elle laisse transpirer l'hypocrisie. L'hypocrisie, on peut bien dire, la plus crasse que puisse être, car dans ces menées conspiratrices contre Jésus, eh bien le Sanhédrin n'a manifestement jusqu'ici que bien peu d'égard pour la justice. Afin d'obtenir un verdict de culpabilité contre Jésus, il a violé virtuellement, absolument, tous les principes de justice. En effet, il a pris de l'argent, l'argent du trésor sacré, il faut bien le dire, pour acheter la trahison du maître par Judas. Mais maintenant qu'il s'agit de remettre l'argent du sang dans le trésor sacré, les juifs religieux, les chefs religieux, éprouvent soudain des scrupules. Et il se peut que ce soit par superstition peut-être, comme Judas, qui semble avoir associé la malédiction de Deutéronome chapitre 27, verset 25, aux pièces d'argent en tant que telles, plutôt que de comprendre que c'est la traîtrise en soi qui fait l'objet de la malédiction. Donc, en avouant que les pièces d'argent constituent l'argent du sang, les sacrificateurs portent donc un jugement contre eux-mêmes, puisqu'ils admettent, pour ainsi dire, que l'argent constitue, selon Deutéronome 27, verset 25, un présent pour répandre le sang de l'innocent. Contrairement à Judas, ces hommes ne semblent éprouver aucun remords de conscience quant à leurs mauvaises actions. Rappelez-vous, ils ont dit « Que nous importe ?» ont-ils raillé Judas. Donc pour eux, tout ce qui compte, c'est de sauver les apparences. À l'époque de Jésus, c'est d'ailleurs très souvent le piège auquel ils prennent la plupart des scribes, des pharisiens, des sadducéens, et on peut dire aussi des autres religieux. Et vu de l'extérieur, ils donnent ainsi l'impression d'obéir plus ou moins à la loi. Ils maîtrisent donc l'art de paraître saints aux yeux des autres. Et leurs vêtements, leurs actions et les rites religieux visent tous à donner une apparence de sainteté. J'ai bien dit une apparence de sainteté. Mais ils négligent des choses bien plus importantes, surtout la droiture véritable et profonde. Ce ne sont donc que des hypocrites. Et rappelons-nous que Jésus leur a reproché de ne nettoyer que le dehors de leur coupe pour la laisser pleine de rapines et d'intempérance. Jésus les a comparés à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais qui sont pleins de mort et d'impureté au dedans. Il est dit dans Matthieu, chapitre 23, verset 25, jusqu'au verset 28, là, il est dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et que, au dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie donc premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Saint Matthieu chapitre 23, versets 25 à 28. Donc, Jésus n'a cessé d'aborder ce thème depuis le tout début de son ministère public. Il s'agit d'ailleurs du message central de son sermon sur la montagne, dans lequel il a enseigné que c'est dans le cœur que la loi morale de Dieu prend tout son sens, et non pas dans les choses extérieures comme les vêtements, les rites et les comportements en public. Saint Matthieu chapitre 6. Les membres du Sanhédrin qui font condamner Jésus-Christ incarnent ainsi l'hypocrisie répugnante à laquelle il s'est toujours opposé. Il refuse, avec une affectation moralisatrice, de mettre l'argent du sang dans le trésor, j'ai dit dans le trésor sacré en plein jour, alors qu'ils n'ont eu aucun scrupule à se servir à même le trésor sacré pour payer, rappelez-vous, secrètement, ce fameux Judas avec l'argent du sang. Ils font ainsi taire leur conscience, affreusement coupable, pour ne se préoccuper que de l'impression qu'ils donnent. ils ne prennent pas même le temps de réfléchir à l'innocence de Jésus. Ils disent, en haussant les impôts, les épaules, que nous importe tout cela? Ils s'empressent ainsi de donner l'impression que Jésus mérite vraiment la mort. Dans la mesure où ils arrivent à donner à leur complot pervers, l'illusion de la légitimité, ils sont parfaitement heureux d'avancer sur leur voie pécheresse, et ils s'évertuent à faire passer Jésus pour coupable et eux-mêmes pour juste, même s'ils savent pertinemment que la réalité est tout à l'opposé des apparences. Maintenant, ils doivent trouver le moyen d'impliquer les Romains, c'est très important, dans leur complot meurtrier contre Jésus. Nous arrêtons notre étude pour reprendre la suite demain, Dieu voulant. Amen. Chers amis, j'ai reçu dans le cœur de vous transmettre quelque chose d'important pour votre, on peut dire, enseignement personnel, mais aussi pour vous encourager. Oui. Écoutez bien. C'est une méditation au sujet de la mort. S'en sera fait de vous bien vite ici-bas. Voyez donc en quel état vous êtes. L'homme est aujourd'hui et demain. Mais demain, il a peut-être disparu. Et quand il n'est plus sous les yeux, il passe bien vite de l'esprit. Ô stupidité et dureté du cœur humain qui ne pense qu'au présent et ne voit pas l'avenir. Dans toutes vos actions, dans toutes vos pensées, vous devriez être tel que vous seriez s'il vous fallait mourir aujourd'hui. Si vous aviez une bonne conscience, vous craindriez peu la mort. Il vaudrait mieux éviter le péché que fuir la mort. Si aujourd'hui vous n'êtes pas prêt, comment le serez-vous demain? Demain est un jour incertain. Et que savez-vous si vous aurez un lendemain? Que sert de vivre longtemps puisque nous nous corrigeons si peu? Une longue vie ne corrige pas toujours. Souvent, plutôt, elle augmente nos crimes. Heureux celui à qui l'heure de sa mort est toujours présente et qui se prépare chaque jour à mourir. Si vous avez jamais vu un homme mourir, songez que vous aussi vous passerez par cette voie un jour. Le matin, pensez que vous n'atteindrez pas le soir. Le soir, n'osez pas vous promettre de voir le matin. Soyez donc toujours prêt et vivez de telle sorte que la mort ne vous surprenne jamais. Plusieurs sont enlevés par une mort soudaine et imprévue, car le Fils de l'homme viendra à l'heure qu'on n'y pense pas. Saint Luc chapitre 12 verset 40. Quand viendra cette dernière heure, vous commencerez à juger tout autrement de votre vie passée Et vous, gémissez amèrement d'avoir été si négligent et si lâche. Que heureux et sage est celui qui s'efforce d'être tel dans la vie qu'il souhaite d'être trouvé à la mort. Vous pouvez faire beaucoup de bien tandis que vous êtes en santé, mais malade, je ne sais ce que vous pourrez. Il en est peu que la maladie rende meilleur, comme il en est si peu qui se sanctifie par de fréquents pèlerinages. Ne comptez point sur vos amis, ni sur vos proches, et ne différez point votre salut dans l'avenir, car les hommes vous oublieront plus vite que vous ne pensez. Il vaut mieux y pourvoir de bonheur et envoyer devant soi un peu de bien que d'espérer dans le secours des autres. Si vous n'avez maintenant aucun souci de vous-même, qui s'inquiétera de vous dans l'avenir? Maintenant, le temps est d'un grand prix. Voici maintenant le temps propice. Oui, voici le jour du salut. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2. Viendra le temps où vous désirerez un seul jour, une seule heure, pour purifier votre âme, et je ne sais si vous l'obtiendrez. Ô mon frère, ma sœur, de quel péril, de quelle crainte terrible vous pourriez vous délivrer si vous étiez à présent toujours en crainte et en défiance de la mort. Étudiez-vous maintenant à vivre de telle sorte qu'à l'heure de la mort, vous ayez plus de sujets de vous réjouir que de craindre. Apprenez maintenant à mourir au monde, afin de commencer alors à vivre avec Jésus-Christ. Oui, apprenez maintenant à tout mépriser, afin de pouvoir alors librement être uniquement pour Jésus-Christ. Insensé, sur quoi vous promettez-vous de vivre longtemps, lorsque vous n'avez pas un seul jour d'assuré? Combien un été trompé et arraché subitement de leur corps? Eh oui, combien ont été vraiment trompés? Combien ont été arrachés de leur corps? Et combien de fois avez-vous oui dire, entendu, cet homme a été tué d'un coup de couteau. Celui-ci s'est noyé. Celui-ci s'est brisé en tombant d'un lieu élevé. L'un a expiré en mangeant, l'autre en jouant. L'un a péri par le feu, un autre par le fer, un autre par la peste, un autre par la main des voleurs. Et ainsi la fin de tous, c'est la mort, et la vie des hommes passe comme l'ombre. Qui se souviendra de vous après votre mort? Faites, oui, faites maintenant, mon cher frère et sœur, tout ce que vous pouvez, car vous ne savez pas quand vous mourrez, ni ce qui suivra pour vous après la mort. Tandis que vous en avez le temps, amassez des richesses immortelles. Ne pensez que à votre salut. Ne vous occupez que des choses de Dieu. Faites-vous maintenant des amis en honorant les saints, en imitant leurs œuvres, afin qu'arrivé au terme de cette vie, ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Saint Luc chapitre 16, verset 9. Conservez donc votre cœur libre et toujours élevé vers Dieu, parce que vous n'avez point ici-bas jamais de demeure permanente. Hébreux chapitre 13, verset 14. Que vos gémissements, que vos larmes, vos prières, que tout monte tous les jours uniquement vers le ciel, afin que votre âme, votre esprit et votre corps, après la mort, méritent de passer heureusement à Dieu. À vous maintenant, chers amis, de dire simplement une petite prière après avoir écouté attentivement. Amen. Et rappelez-vous que Dieu vous aime. Oui, il vous aime beaucoup, beaucoup. Et il est donc de mon devoir de vous aimer également de tout mon cœur. Et maintenant, je vous enlace tous et je vous embrasse fraternellement et je vous dis, oui, je vous aime, soyez bénis. À demain, Dieu voulant, pour la suite de cette série. Au revoir.